ça vous dit d'aller boire un verre?
Non, on écoute, vous êtes libre ce soir.
Bienvenue sur Radio Béton et notre émission. Vous êtes libre ce soir sur le 93.6. Alors, on parle de culture libre, logiciel libre, et là, on va parler de loi et de droit d'auteur, parce que le droit d'auteur, ça nous intéresse beaucoup, en particulier parce que c'est ça qui permet ou non de modifier une œuvre, de se la réapproprier, etc. Et donc, Emmanuel, tu voulais commencer par nous parler des droits d'auteur, ce que c'était, ce que ça recoupait, il y a différents droits là-dessous.
D'abord, c'est un truc un petit peu complexe, donc on va tâcher de débroussailler le droit de manière plutôt légère et pour qu'on en retienne enfin quelque chose. D'abord, il y a d'abord le droit d'auteur. C'est un droit de propriété sur une œuvre. Les anglo-saxons parlent de copyright. En droit français, c'est le droit d'auteur patrimonial. Ça veut dire que l'auteur est propriétaire, en quelque sorte, de son œuvre. Après, en France, un petit ajout à ce droit, c'est le droit moral. C'est-à-dire que, par rapport à un auteur, on ne pourra pas faire n'importe quoi avec son œuvre, même si elle est entrée dans le domaine public, et que le droit d'auteur patrimonial ou copyright a expiré. Par exemple, je sais pas si tu te souviens, par rapport à quelque chose qui n'est pas vraiment un grand chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'était un dessin animé de Disney, dont on va reparler. Qui était Le Bossu de Notre-Dame, basé sur le roman de Victor Hugo qui portait le même nom. Eh bien, même si le roman était dans le domaine public, il y avait eu un procès intenté par les descendants de Victor Hugo à la compagnie Disney sous le prétexte que ce dessin animé violait le droit moral de Victor Hugo parce que ça donnait une image de grande guignolerie par rapport à au roman qui était sérieux et trouvait que c'était vraiment traité avec légèreté l'œuvre de leur ancêtre.
Oui, alors un point important, le droit d'auteur, c'est quelque chose qui est arrivé à peu près en même temps que la Révolution française, etc.
Je dirais un tout petit peu avant.
Un tout petit peu avant, si tu veux. En tout cas, le concept, c'était de porter l'innovation et de pouvoir faire profiter aux artistes et à ceux qui ont créé une œuvre de leur œuvre. Mais par contre, ça verrouillait totalement le fait de pouvoir permettre de la modifier ou de l'utiliser sous certaines conditions parce que c'était pas dans l'air du temps, il n'y avait pas internet et souvent quand on reprenait quelque chose c'était complètement à but commercial.
Et il y a aussi un truc qu'il faut rappeler, c'est que par rapport au rôle des éditeurs, des auteurs, en tout cas au XVIIIe siècle, c'est que les auteurs étaient un petit peu victimes des éditeurs et autres personnes qui exploitaient leurs œuvres. Par exemple, il y avait pas mal d'éditeurs qui s'arrogeaient les droits d'auteur sur ce qui était publié par leurs auteurs, où il y avait des compagnies de théâtre qui produisaient des spectacles basés sur des pièces de théâtre dont ils n'avaient jamais rémunéré les auteurs. C'était vraiment une injustice qui était vécue par les artistes, et c'était juste un juste retour des choses, le droit d'auteur. Alors que maintenant, c'est plutôt les éditeurs, les producteurs, bref, tous ceux qui exploitent les œuvres des artistes, qui maintenant ont le pouvoir. Maintenant, ce sont eux qui détiennent les droits de l'auteur, parce que l'auteur leur a généralement vendu son œuvre. C'est ce qui se passe dans les majors. Et c'est maintenant eux qui veulent exploiter jusqu'à plus soif les droits d'auteur.
Voilà, d'où la grosse question de la durée des droits d'auteur. Alors, qui pour l'instant en France, si je dis une bêtise, tu me reprends Emmanuel, hein, j'en suis capable, sont fixés à 70 ans après la mort de l'auteur, quel que soit le type d'œuvre, que ce soit une œuvre faite par une entreprise ou par un particulier. Il y a quelques exceptions, c'est dans les situations de guerre. Imaginons qu'il y ait une guerre, par exemple il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui tombe en plein dedans, les artistes on considère qu'ils n'ont pas pu profiter de ces années pour vendre leur œuvre, et donc ils ont droit aux années de guerre en plus. Donc par exemple, je sais pas, voilà, un auteur qui a eu 5 ans de guerre, et ben il a droit à 75 ans au lieu de 70 après sa mort. Donc ça, c'est 70 ans après la mort de l'auteur, c'est quand même une durée énorme avant que ça devienne public, sachant que l'argent, il est fait plus tôt. Alors, on peut regarder aussi à l'extérieur peut-être de la France. Par exemple aux États-Unis, où il y a eu une superbe loi il n'y a pas longtemps, c'était en 1998, qui consistait à rallonger la durée du droit d'auteur.
Alors, de 20 ans.
De 20 ans, voilà, parce qu'on considérait que c'était pas... Alors, c'était, que je dise pas de bêtises, c'était 50 ans après la mort de l'auteur et 75 ans pour les œuvres collectives, d'entreprise par exemple. Et donc on a rallongé les deux de 20 ans, maintenant c'est 70 ans après la mort de l'auteur et 95 ans pour les œuvres collectives d'entreprise. Alors, cette loi, elle a été beaucoup critiquée parce que c'est une loi qui, comme par hasard, tombait l'année où Mickey aurait dû passer dans le domaine public. Ouais, je crois qu'on va beaucoup parler de Disney hein, pendant cette émission. Oui. On en a déjà parlé avec Victor Hugo. Maintenant, on va en parler avec Mickey Mouse, qui a été créé en 1828. Et qui donc,
1928.
Devait... Ah oui, 1928. Autant pour moi, et qui devait donc tomber dans le domaine public 70 ans après, ce qui fait 1998, année où la loi a été votée, qui augmente de 20 ans la durée, et donc on peut espérer pouvoir faire nos propres versions de Mickey Mouse que 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 2018, si je dis pas trop de bêtises. Voilà, donc...
Et il faut aussi rappeler que même si Disney a milité pour allonger encore plus la durée du droit d'auteur, à la base, Mickey Mouse a pas mal profité des exceptions droit d'auteur, comme par exemple la parodie, c'est-à-dire que la plupart des histoires de dessins animés avec Mickey étaient des parodies de films existants, du cinéma, de l'époque. Et puis aussi, la Walt Disney Company a pas mal profité... du domaine public. Faut dire qu'à l'époque, le droit d'auteur dure en moyenne 30 ans. Donc, vers les années 1930, Walt Disney a pu profiter de toutes les œuvres, même assez récentes. Et il y a juste un petit listing de grands classiques de Disney qui, en fait, ont été très faciles à produire parce que le scénario était dans le domaine public. Alors, on va commencer. Blanche-Neige, Fantasia, Pinocchio, Dumbo, Bambi, Mélodie du Sud, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles,
Oh là,
Robin des Bois.
Oh là, Emmanuel, on a qu'un quart d'heure pour l'émission, Emmanuel.
Donc, je m'arrêterai là parce que au total, il y en a pas loin d'une bonne vingtaine. Et c'est pas mal le domaine public pour se faire pas mal de sous. Et aussi.
Enfin, voilà, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, s'il y a une œuvre qui est faite. Cette année, on peut pas espérer voir une œuvre qu'on aime tomber de son vivant dans le domaine public. Voilà.
Petite pause.
Voilà, une petite pause. Alors, c'est Emmanuel qui a choisi. Moi, je connais pas, donc je vais pas pouvoir présenter tout ça.
Ah, c'est une chanson d'une chanteuse canadienne qui s'appelle Alison Krauss. C'est une chanson assez récente qui est sortie il y a quelques mois et qui s'appelle Going Home Tonight.
Ok, ben c'est parti. Darker side of me. Une petite chanson reposante d'Alison Krohn sous licence Creative Commons by NC SA, voilà, c'est dit. Alors on va continuer, on a encore plein de choses à dire. On voulait parler, ah oui, une expression qu'on n'aime pas trop, ça s'appelle tomber dans le domaine public. C'est un peu comme tomber dans un piège ou tomber dans un trou profond et béant dont on ne ressort pas. Nous, on trouve que quand une œuvre tombe dans le domaine public, c'est pas si mal. Ça permet aux utilisateurs de se l'approprier, de la modifier, d'en faire ce qu'ils veulent. Et quelque part, ça fait un bien commun en plus. Donc on préférerait que ce soit un autre mot comme atteindre le domaine public, quelque chose comme ça.
Ou plutôt s'élever dans le domaine public.
Voilà, dans le domaine public, ça devient religieux, faut faire gaffe. Oui. Non, mais voilà notre avis sur l'expression et sur l'importance du domaine public et des œuvres qui y sont.
Sachant qu'après, on peut se la partager gratuitement avec Internet, ou même les éditeurs de livres peuvent aussi vivre de l'édition de livres dans le domaine public. Et on peut justement faire jouer la concurrence sur les éditeurs, ce qu'on ne pouvait pas faire avant.
Voilà, ouais. Alors ça nous amène à un sujet qu'on va présenter très rapidement, c'est Wikisource, la bibliothèque libre.
Vous aurez reconnu le mot wiki, un peu similaire à Wikipédia, hein, mon petit chouchou. Mais en fait, c'est aussi un projet de la fondation Wikimedia, qui est aussi à l'origine de Wikipédia. Et donc l'idée, c'est de fédérer dans un wiki, donc l'outil de collaboration simple et efficace comme on l'aime, tous les livres qui sont sous licence libre, c'est-à-dire à la fois des livres qui sont entrés dans le domaine public, élevés dans le domaine public. Vous y trouverez pas mal de choses qui datent du début de l'histoire, ça commence par la Bible, jusqu'à des bouquins qui datent aussi du XXe siècle, voire du début du XXe siècle. Donc c'est assez sympa, c'est accessible, et ça nous permet gratuitement de lire pas mal de choses. Par exemple, j'ai été assez intéressé par des romans de Conan Doyle sur Sherlock Holmes. Voilà. Et il y a aussi d'autres livres qui sont un peu plus récents et qui sont publiés sous licence libre. Bien sûr, il y a des critères pour que ceci soit publié sur Wikisource. Il faut qu'il y ait une certaine notoriété à ces livres-là. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des livres qui sont publiés sous licence libre. C'est pas le domaine public, mais ça permet d'y accéder assez facilement et de faire pas mal de choses, parce que ça nous donne les libertés.
On a survolé très très rapidement, si j'ose dire, l'histoire du droit d'auteur. Non, on a à peine parlé d'ailleurs de l'avantage des licences libres par rapport à ces histoires de durée, de copyright, etc. Mais si vous voulez en savoir beaucoup beaucoup plus, il y a un livre qui est pas mal, qui s'appelle Free Culture de Lessig. Je sais plus son prénom.
C'est Lawrence Lessig.
Lawrence Lessig.
Un professeur de droit américain qui est justement le fondateur des licences Creative Commons. Ouais. Les licences Creative Commons s'appliquent à la plupart des œuvres libres.
Ouais, c'est les licences libres de la plupart des morceaux de musique qu'on passe. Et donc, je vous conseille ce livre. Vous devez pouvoir le trouver facilement sur Internet. Ou...
sur le site free-culture.cc.
Voilà, très bien. Et ben, j'espère que vous avez passé une bonne émission. Et à la prochaine fois. Au revoir.
Au revoir.